La lecture d'aujourd'hui sera l'évangile de Matthieu, chapitre 24, les versets 15 à 28. Et le titre du message est « Les signes du retour du roi ». Deuxième partie, la grande tribulation. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible même, les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans la chambre, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'enlèvement du Fils de l'homme. Que, quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Fin de la lecture. La crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui pousse les êtres humains à réfléchir sur lui-même. Le monde aspire naturellement à connaître des jours meilleurs où règne la paix, l'harmonie, plus de stabilité économique, une diminution de la criminalité, moins de maladies, moins de conflits, en deux mots, moins de catastrophes. La Bible est claire sur le fait que, malgré quelques périodes d'amélioration temporaire, les choses sont destinées à s'infecter considérablement. L'humanité connaît actuellement une période durant laquelle les désastres se multiplieront davantage comme jamais auparavant. À ce sujet, Jésus a dit, Matthieu chapitre 24, verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a eu point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » La Bible nous dit que la grande tribulation s'étendra au monde entier, mais s'attardera à la nation et au peuple d'Israël. Elle marquera la fin des jours de l'homme et le retour de Jésus-Christ. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 15, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. » Ce passage que je viens de lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, nous montre que nous sommes maintenant dans le milieu de la tribulation. ayant donné un bref aperçu de toute la période de la tribulation avant son retour, Jésus parla ensuite du plus grand signe observable pendant cette période, l'abomination de la désolation. Certains commentaires placent cette période au milieu de la tribulation. Daniel en avait parlé dans sa prophétie dans Daniel chapitre 9 verset 27 et fait allusion à l'interruption du culte juif qui sera institué dans le temple de la tribulation et à l'établissement du culte du dictateur mondial, l'Antichrist, dans le temple. Il rendra le temple abominable et par conséquent désert, en dressant dans le temple une statue de lui-même qui devra être adorée. Apocalypse 13, versets 14 et 15 et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4 nous en parle aussi. La Bible nous dit que l'Antichrist se proclamera lui-même Dieu. Cet homme, l'Antéchrist, sera un leader doué de grande puissance et d'intelligence, qui mènera le monde contre Dieu et contre son Fils Jésus-Christ. Daniel 7 en parle, versets 23 et 27, Apocalypse 13, versets 1 à 10. Pourquoi l'appelle-t-on l'Antéchrist ou l'Antichrist ? Traduction plus juste qui signifie quelqu'un qui prétend être contre Jésus-Christ, à la place d'eux exactement, anti. Il arrivera au pouvoir dans le monde ébranlé par le trouble énorme mentionné par le Seigneur dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 7. Il gagnera la confiance des peuples par l'éclat de sa force et des promesses de paix. Apocalypse 13 nous en parle, versets 3 et 4. Il représente le point culminant d'un système mondial afin d'unir les êtres humains entre eux, mais contre l'Éternel et contre son oint, qui est Jésus-Christ. Le contexte de Matthieu indique une situation semblable dans les derniers jours, mais bien plus sévère encore. Première leçon pour nous aujourd'hui par rapport à ce texte que je viens de lire. Où Jésus veut-il en venir? C'est qu'aucun bien ne vaudra la peine de risquer sa vie pour le récupérer et aucun empêchement ne pourra être considéré comme insignifiant. À raison de l'imminente terreur, fuir résolument sera la seule chose à faire ce jour-là. Notre gouvernement nous rappelle dans cette crise du coronavirus, restez chez vous. Jésus dit, dans ce temps de la fin, de la grande tribulation, fuyez de chez vous. Deuxième danger, il se trouve dans le verset 21 et verset 22. À cause des élus, ce jour seront abrégés. Je crois à l'enlèvement de l'Église, et la parole en parle, elle le cite dans le Thessaloniciens. Cette Église-là sera déjà auprès de son Seigneur. Mais Apocalypse chapitre 7 nous dit que l'existence d'un grand nombre de Juifs et de païens qui se convertiront durant la grande tribulation. Dieu, par compassion envers eux, limitera la durée du règne de l'Antichrist en 3 ans et demi. Nous lisons dans Matthieu chapitre 7, verset 25, que les saints seront livrés entre ses mains, celles de l'Antichrist, pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Cela semble correspondre au bannissement de Satan du ciel à sa chute sur la terre, Apocalypse 12, verset 12, qui nous dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Une petite consolation pour cette période, et c'est notre deuxième leçon durant cette prédication. Dieu ne permettra pas à ses élus qu'ils soient tentés au-delà de leurs forces, comme nous le dit Matthieu, chapitre 24, verset 22, ni tomber sous la séduction des faux prophètes, verset 24. C'est la même chose pour nous aujourd'hui, au 21e siècle. Troisième danger, c'est le verset 24 à 27. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Je l'ai déjà dit et je voudrais le redire au travers de ce message. Il est important de savoir que les miracles n'est pas nécessaire pour une indication de la main de Dieu. Les chrétiens ont besoin de s'attacher à la parole de Dieu, à ne pas se laisser embobiner par toutes sortes de messages, aussi spectaculaires soient-ils. Lorsque la fin approchera, le monde assistera à des manifestations à la fois surnaturelles et séduisantes, dues à l'Antichrist. Rappelons que Dieu nous a donné des critères permettant de pouvoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est dans l'erreur. Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3. Ce texte est souvent oublié par les chrétiens d'aujourd'hui, mais voici ce que ce texte dit. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il est l'accomplissement du signe ou du prodige, donc il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel qui nous met à l'épreuve pour savoir s'il aime l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez auprès de l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. » Ce texte nous rappelle que dans ce monde, il peut y avoir des personnes qui prétendent être prophètes ou songeurs, mais s'ils racontent des balivernes qui ne sont pas de Dieu et qui nous éloignent de la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur nous dit de ne pas les écouter. Troisième leçon pour nous aujourd'hui, est-ce que nous faisons attention ? Avons-nous du discernement quand on écoute quelqu'un qui porte un message au nom de Dieu? Est-ce que nous nous laissons distraire par ce qui n'est pas de Dieu? Les miracles et les prodiges peuvent être des choses qui nous éloignent de Dieu et nous distraire. Les plaisirs de ce monde peuvent nous distraire, comme les miracles et les prodiges. Satan va s'en servir pour nous éloigner de Dieu. Quatrième danger, verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Cette affirmation correspond peut-être à un proverbe couramment utilisé en Palestine à l'époque de Jésus. Comme il se peut que ce soit alors le cas dans de nombreuses régions du globe. Même au sein d'une société hautement civilisée, des temps modernes, il n'est pas rare de voir à la campagne des vautours voler en rond au-dessus d'un cadavre, d'un animal mort, surtout dans les déserts. Savez-vous qu'il existe en France des régions où il y a des vautours ? Dans les Cévennes, dans les Écrins, au Mercantour et même dans les montagnes des Pyrénées. le vautour fait partie des espèces les plus menacées en Europe. Dans cette période, Dieu va s'en servir contre le péché. À la fin de la grande tribulation, le péché du monde aura atteint leur comble et le monde se sera spirituellement corrompu au point de ne plus être d'une misérable carcasse presque sans vie. Tandis que le monde sera allongé comme un animal mort dans le désert, Christ apparaîtra enfin pour le jugement, sa justice, et elle sera terrible. Conclusion. Que pouvons-nous comprendre par ces quelques versets? Premièrement, et je pense que c'est le plus important, comme je le disais, l'Église de Jésus-Christ, celle d'aujourd'hui, ne vivra pas cette période. Nous devrions être reconnaissants en Dieu, parce qu'il nous a pas choisis pour subir la colère de la grande tribulation. Nous devrions dire un grand Amen, comme souvent je le vois au travers des petits messages qui circulent dans notre téléphone portable. Nous devrions dire un grand Amen, être dans la reconnaissance de Dieu, parce que Dieu n'a pas choisi de nous faire passer par la grande tribulation. Deuxième chose par rapport à ce texte que je viens de vous lire, il nous délivre de la colère à venir, nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, et voir plus loin. En tant que peuple de Dieu, nous connaîtrons certainement de grandes difficultés, ce qui est le cas aujourd'hui avec le coronavirus, mais non pas la grande tribulation. N'est-ce pas merveilleux? Oui, c'est vrai que ce temps est difficile, mais ne soyons pas troublés, comme nous le rappelle la parole de Dieu. J'aimerais terminer par la lecture de Thessaloniciens, chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tous ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui retienne encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils soient proie au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont produit plaisir à la justice soient condamnés. Pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de votre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par votre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermit entre bonne œuvre, en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. J'aime beaucoup la conclusion de ce passage. Consolez vos cœurs, verset 17, et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Dieu nous a donné une bonne espérance. Cette espérance, elle est en Jésus-Christ, et nous devons consoler nos cœurs. Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps de message, même si je sais, Seigneur, que je suis tout seul dans cette chambre, Seigneur, et qu'il y a personne autour de moi, mais je sais que ce message sera écouté. Et Seigneur, je voudrais rappeler au travers de ce message que nous avons une grande espérance en Jésus-Christ. Notre cœur ne doit pas être troublé. Non, notre cœur ne doit pas être troublé. Même si cette période nous paraît difficile, et elle a été dans le passé pour l'Église, Seigneur, aujourd'hui nous devons tourner nos regards vers toi. Nous devons prier pour nos parents, pour nos amis. Nous devons prier, Seigneur, pour les personnes qui t'appartiennent pas et qui aujourd'hui malheureusement meurent dans les hôpitaux. Certaines personnes, Seigneur, vont se retrouver sûrement dans les jours qui vont suivre dans une grande détresse. Eh bien, Seigneur, je veux prier pour que tu puisses mettre dans leur cœur une espérance en toi et que Jésus-Christ vienne les sauver avant qu'il soit trop tard pour eux. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces textes qui nous rappellent que aucun texte ne passera qui ne soit accompli. À toi en revient toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.